j'aimerais vous partager avec simplicité ce que je crois le Seigneur avoir mis sur mon cœur. Je priais et j'ai des pleurs qui sont venus profondément dans mon cœur parce que je voyais la peine qu'on a à se lever, la peine qu'on a à servir Dieu, la peine qu'on a à choisir Dieu plus que tout. Et le Seigneur m'a donné une vision et que j'aimerais vous partager, qui va avec ce que je vous partage là. Et c'était comme si toute l'humanité était sur un quai de gare et il y avait Dieu qui ne cessait d'envoyer des trains, qui ne cessait d'envoyer des trains. Et sur ce train, c'était écrit « Service pour Dieu ». Et il n'y a personne qui montait. Et les trains, ils continuaient à passer. Et vous savez, pour ceux qui ont déjà pris le train, quand tu rates le train, il y a un suivant. Et si tu rates le suivant, il y en a encore peut-être encore un suivant. Mais si tu rates le suivant, eh ben, il y a un moment où ce sera trop tard, il y a un moment où ce sera minuit, il y a un moment où tu vas dormir et tu seras mis à la porte et il n'y aura plus de train. Et je voyais comment Dieu envoyait encore des trains vers nous pour servir Dieu. Et je voyais au combien ben, si peu de gens prêtaient garde et voyaient presque arriver le train, service pour Dieu. Et puis, ben non. Et puis le train partait. Et pourtant le train attendait, mais le train, au bout d'un moment, est parti. Et je voyais finalement la peine qu'on a à vraiment nous lever et à vraiment servir Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est vraiment tellement difficile. Je crois que le péché abonde tellement au milieu de nous, en nous, que ça devient tellement difficile qu'on ne voit même plus le train passer finalement. Et si on tourne juste la tête un instant, on voit « service pour Dieu », mais ça nous fait même plus titre. Et on voit même Dieu, ça nous fait même plus titre. Et alors le train continue. Et pourtant, tout ce que Dieu veut, c'est qu'on quitte le quai, qu'on rentre dans ce train et qu'il nous mène là à la destination que lui, il veut. Mais nous, on veut encore trop souvent rester sur la gare. On reste trop souvent dans nos chaussettes. Et je crois que justement, ce que Dieu veut et ce que Dieu cherche, c'est des gens qui montent chaque jour dans le train. Des gens qui sont vraiment passionnés pour lui. Des gens qui sont prêts à payer le prix. Des gens qui sont prêts à tout quitter intérieurement, extérieurement pour le suivre. Pour le suivre, pour monter dans ce train et ne plus jamais y redescendre. Et ce train, eh bien sûr qu'il aura un voyage certes mouvementé, mais c'est le train de la vie. C'est le train qui te mène à la vie éternelle. C'est le train du service pour Dieu. C'est le train de la gloire. C'est le train de la communion avec Dieu.
J'aimerais rajouter quelques mots, bien-aimés, et c'est comme ça peut-être que je vais vous le dire, ça peut paraître très prétentieux, mais je vous le dirai comme ça, cœur ouvert, j'ai au fond de mon cœur un gros problème avec l'Église d'aujourd'hui. J'aimerais simplement vous partager mon problème. Le gros problème que j'ai avec l'Église d'aujourd'hui, au fond de mon cœur, c'est que nous sommes souvent touchés, nous vivons beaucoup de choses, et qu'est-ce que nous faisons réellement? Mon gros problème, c'est que Dieu voit un peuple qui le loue, qui l'aime, qui l'adore. Mais qu'est-ce qu'il fait par sa vie réellement? Dieu voit une église qui finalement, même remplie de vie, remplie d'amour, de reconnaissance, est une forme de religion, une spiritualité. Et il y a une prédication particulièrement forte le dimanche passé au Pays Basque qui a été enregistrée. Et dans cette prédication, Dieu m'a donné de souffrir profondément pour son Église dans la nuit qui a précédé. Et je suppliais les personnes qui écoutaient, ne soyez pas touchés par ce message. Je les suppliais, ne soyez pas touchés par ce message, mais réfléchissez concrètement. Pourquoi ? Parce que mon problème, c'est que j'ai l'impression que l'Église, eh bien, elle se réunit dimanche en dimanche, de semaine en semaine, et elle vit des choses, elle loue Dieu, et tout ça c'est vrai, et tout ça c'est juste, et tout ça c'est bon, et on est appelé à louer, à l'adorer, à louer pour sa fidélité, qu'il est toujours avec nous. Et on est touché, et on avance. Et qui c'est qui sert Dieu? Qu'est-ce qu'on fait réellement de notre vie? Et c'est ça simplement que j'aimerais vous laisser particulier aux jeunes, pour qui, comme l'a très bien dit Julien, c'est peut-être plus facile de réfléchir réellement à qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Ma prière, c'est que vous ne soyez pas que touchés par ce camp. Sinon, vous savez ce que vous allez faire. Je vous demande pardon de vous dire la vérité. Vous allez venir de camp en camp. De camp en camp, vous allez vous repentir, vous allez être touchés, vous allez sentir la présence de Dieu, vous allez vivre des expériences avec Dieu, puis vous allez repartir, puis vous allez retomber, puis vous allez vous hâter que le prochain camp va venir pour que vous reviviez quelque chose avec le camp. Et moi, mon désir, c'est que oui, vous soyez touchés, visités, mais que vous réfléchissiez très sérieusement qu'est-ce que vous allez faire de votre vie. Parce que moi, j'ai un réel problème. Qu'on a des enfants de chrétiens et on parle de Christ crucifié. Vous pouvez, comme je l'ai dit la semaine passée, aller prendre une concordance. Et j'ai dit, regardez le mot disciple. Hein ? Vous prenez le mot disciple et vous lisez tout ce que Jésus dit par rapport aux disciples. Et dites-vous, est-ce que je suis vraiment un disciple de Jésus-Christ ? Qu'est-ce que ça veut dire être un disciple de Jésus-Christ ? Et en fait, on a un Dieu crucifié qui a tout donné pour nous, qui pleure, qui crie, plus que jamais aujourd'hui. La moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux, et on a des parents chrétiens qui se réjouissent qu'un enfant fasse de grandes études, ou qui se disent, quel métier vas-tu faire ? Et on ne se rend pas compte qu'on est comme envoûté par ce monde, mais pas de la parole de Dieu en tout cas. Pourtant, en tout cas moi, et que je sois missionnaire ou pas, c'est ce que je souhaite à tous ces enfants. Bien sûr, l'Esprit de Dieu viendra le confirmer en eux. Mais bon, ma seule pensée, et je ne peux pas en avoir une autre, quand je suis devant la parole de Dieu, c'est que mon fils, ma fille, tous les enfants qui viendraient, c'est qu'ils servent Dieu. C'est qu'ils servent le Seigneur. Pardonnez-moi. Mais moi, je n'ai que faire d'avoir un enfant qui est touché par Dieu, qui le remercie pour ses péchés, mais qui finalement va travailler pour ce monde, pour de la nourriture périssable. Et mon gros problème, et c'est ma prière pour ce camp, pour les jeunes, mais aussi pour les adultes, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus dur pour des adultes quand on a commencé dans la vie et qu'on a connu le Seigneur, on ne se pose souvent pas la question. Qu'est-ce que réellement je vais faire ? Si on a un travail qui est complètement lié au péché, alors on va quitter le travail, puis on va subtilement se dire, bon, ben on va trouver un autre. J'aimerais vous dire, bien-aimés, c'est le cœur de ce que j'ai prêché dimanche dernier, que nous étions en Éden avec Dieu, vous voyez ? Nous étions là avec Dieu en Éden. Nous étions faits pour lui, pour être en communion avec Dieu, pour l'adorer. Mais il y a eu la chute. Et ça, ça doit être clair pour nous tous. Il y a eu la chute. Et alors, on est séparés de Dieu. On est dans un monde séparé de Dieu. Jésus, il est venu pour faire quelque chose dans nos cœurs, mais surtout parce qu'il va revenir pour que ce monde séparé de Dieu revienne pour faire un avec Dieu, le royaume. Jésus n'a pas que dit « repentez-vous », il a dit « repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Le seul sens de notre vie chrétienne, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on a réfléchi réellement à qu'est-ce que c'est ? Nous étions faits pour la gloire, nous avons chuté, Jésus est venu pour nous réconcilier avec lui, on le saura pleinement quand il va revenir. Alors le seul sens de notre vie chrétienne, c'est de servir Dieu. C'est de réconcilier les autres avec le Père. Ce monde, il n'a rien à nous offrir. Il n'y a pas de sens de vivre une vie chrétienne bénie dans ce monde. C'est une fausse compréhension de l'Évangile. Et aujourd'hui, Jésus a parlé de faux Christ, de faux prophètes. Le faux Christ est celui qui croit que Christ me bénit et que je suis béni pour ce monde. Non ! Regardez la vie de Jésus, regardez la vie des apôtres, regardez la vie des prophètes. Est-ce un conte de fées, cette Bible ? Est-ce que le diable nous a comme retourné là, le cerveau pour qu'on se dise « Ah, j'ai Jésus, merci, tu es bon, gloire à toi !» Non, si on a Jésus, c'est pour le servir. C'est qu'on comprend que Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. Mais pas simplement dans nos cœurs. Et c'est là ce que j'aimerais vous donner ce matin. Que toute la prêche qu'on vient d'entendre, ce soit pas simplement pour ce qui se passe dans notre cœur, mais pour le concret de notre vie. Jésus nous réconcilie dans notre cœur, mais il veut concrètement réconcilier ce monde avec lui-même. Et c'est ce qu'il va faire au dernier jour. Et ceux qui auront été bénis avec Dieu, par Jésus sauvé, et qui auront vécu sans réfléchir à quel était réellement le sens de leur vie, je ne dis pas qu'ils vont être condamnés, mais je dis qu'ils vont avoir un choc. Un choc quand ils vont se présenter devant Dieu, qui leur dira, j'ai parlé de qui étaient mes disciples. Jésus, il a dit, allez de par toutes les nations pour faire des disciples, non ? Et même le fait de faire des disciples, parce qu'on ne lit pas la Bible telle qu'elle est, on s'est imaginé une idée de ce qu'est un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui lit bien sa Bible. Un disciple, c'est celui qui prie tous les matins. Mais je ne vais pas vous le dire. Vous allez voir ce que Jésus entend par un disciple. Parce que l'Église d'aujourd'hui, avec tous ses programmes, il faut être un disciple, veut dire que ce que ça veut dire. Pour Jésus, c'est clair. C'est quelqu'un qui le sert. C'est quelqu'un qui, comme lui a tout donné, donne tout pour lui. Et mon problème, j'espère que vous l'aurez compris, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos cœurs, mais qu'est-ce qui se passe dans le concret de notre vie ? Qu'est-ce qu'on fait réellement de notre vie ? Alors vous pouvez dire, et il y a un conditionnement de l'Église catholique qui est là derrière. Vous, vous êtes appelé, vous êtes démissionnaire. Alors vous voulez projeter ce que vous vivez sur les autres. Dans l'Église catholique, il y a ceux qui servent Dieu, puis il y a ceux qui vont à la messe. Il y a ceux qui vont à l'église. Il y a le clergé, puis il y a les laïcs. Et que vous le vouliez ou pas, même si on est revenu aux Écritures, à la parole de Dieu, ça manque dans l'église protestante évangélique. La foi seule, il n'y a pas de problème. Parce qu'on est sauvé par la foi, et puis ben on peut vivre, alléluia, on est sauvé. Mais l'Écriture, est-ce qu'on peut la prendre pour ce qu'elle est ? Si on la prend pour ce qu'elle est, elle va nous faire beaucoup, beaucoup réfléchir. Seule la foi, mais seules les Écritures. Alors j'aimerais prier pour vous en particulier, jeunes, mais aussi pour les adultes qui peuvent être là. Est-ce qu'on peut mettre nos vies clairement devant Dieu et comprendre que si Jésus a fait quelque chose dans nos cœurs, c'est pour le faire avec ce monde, et que la seule vision de Dieu, c'est de nous réconcilier pour retourner dans une communion avec lui. Et que Dieu souffre de voir des chrétiens qui sont heureux parce que Dieu est avec eux, mais qu'est-ce qu'ils font réellement ? Il n'y a plus de disciples aujourd'hui. Ou il y a les disciples qu'on invente selon nos programmes. Il n'y a plus de missionnaires. Et Jésus, il a voulu sauver pour envoyer des missionnaires. Dans la première église, c'était clair. Les gens, ils quittaient tout, ils lâchaient tout. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient dit à Jésus, « Est-ce en ce temps que tu restaureras la royauté en Israël ?» Ils étaient sûrs que Jésus allait revenir parce qu'ils savaient que tout le but de Dieu, c'était de faire que ce monde rentre dans le règne de Dieu. Alors voilà, je ne veux pas en dire plus, mais je vous aurai au moins exposé un petit peu mon problème. Et je sais que au sein de cette mission, c'est un cri qui va être entendu. Ça, je ne sais pas. En tout cas, qui va se faire entendre de plus en plus dans l'Église. D'oser, d'oser prêcher comme on n'ose plus prêcher. Comme Jésus prêchait. Laisse les morts enterrer leurs morts. Laisse ton père et ta mère. Vends tes champs. Vends tout. Sers-moi. Jésus, il a été 3 ans sur la terre pour faire le ministère, pour servir, non ? Jésus, tu es mon modèle. Bon, ben quel modèle il est pour nous ? Parce que là, il est mort, ressuscité, il est monté aux cieux. Et ce que nous sommes en tant que chrétiens, dans la vérité des Écritures, c'est que Jésus est la tête, hein ? Jésus est la tête et nous sommes son corps. Et qu'est-ce que Jésus a fait sur la terre ? Il n'a rien fait qu'il ne voyait faire au Père. Il a fait la volonté de Dieu. Et il a servi. Et il a prêché. Et il a fait l'œuvre de réconciliation. Et si Jésus est la tête et nous sommes son corps, sommes-nous réellement son corps ? J'ai l'impression qu'on a certaines personnes, mais il y en a peu, qui sont l'authentique corps de Jésus, qui ont réellement dédié leur vie. Ma vie, c'est le service. Mais il y a tout un corps, beaucoup plus grand, fait de chrétiens qui sont bénis, qui sont heureux, qui vont de réunion en réunion et qui sont les laïcs catholiques, vous voyez. Et qui se disent qu'il y en a d'autres qui servent Dieu, puis eux, ils font un petit peu ce qu'ils peuvent. Mais sont-ils réellement le corps de Christ ? Et moi, j'aimerais inviter chacun à réfléchir concrètement. On va prendre ce chant-là. À toi, nos cœurs, nos vies. Christ, notre roi. Nous marchons tous à ta suite, Christ notre roi. Et qu'on réfléchisse. Est-ce que c'est vrai ce qu'on chante ? Est-ce qu'on marche réellement à la suite de Jésus-Christ? Combien de fois, je crois qu'on le connaît presque tous ce chant, combien de fois on l'a chanté? Qui le vit? Qui marche réellement à la suite de Jésus? Et Jésus, il n'avait pas où reposer la tête. Il a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, le Fils de l'homme, il n'a pas où reposer la tête. Et cette génération de Noé, elle est plus subtile et terrible que ce que l'on croit. Et Jésus va venir comme un voleur. Ça veut dire qu'on ne s'y attendra pas. Et moi, je n'aimerais pas que vous ayez des regrets. Quand Jésus reviendra dans sa gloire, alors là, vous verrez parfaitement ce qu'il a pu vivre à la croix. Et vous verrez parfaitement quel était le sens de votre vie, d'être son corps, de le servir. Et vous ne disiez pas, zut, je ne me suis pas rendu compte. Je glorifiais Dieu intérieurement, mais qu'est-ce que j'ai réellement fait par ma vie? Moi, de tout mon cœur, j'aimerais dire à tous les jeunes, si vous réfléchissez à devenir, je dis n'importe quoi, mécanicien, à devenir pilote d'avion, à devenir médecin, à devenir coiffeuse, hein, à devenir n'importe quoi. Réfléchissez à devenir missionnaire. Et dites-vous que selon la pensée de Dieu, les Écritures, lisez un évangile comme ça un jour, un samedi, vous lisez un évangile comme ça en entier. Des fois, on a comme besoin de revoir la parole de Dieu fraîchement. Ben que pour Jésus, quand on est chrétien, on le sert. Alors on a employé le mot missionnaire aujourd'hui, mais on devrait employer le mot disciple. Disciple. Alors bien sûr, s'il y a quelqu'un qui travaille, je prends l'exemple de le fondateur, un authentique apôtre du Seigneur de Reto, une superbe œuvre de Dieu en Espagne qui s'occupe des drogués, puis elle est en Espagne et bien au-delà. Lui, il était chef d'entreprise. Alors dans l'église évangélique, on donnait la dîme, le 10%. Mais c'est quelqu'un qui s'est réellement approché de Dieu. Alors il a commencé à dire, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Je donne le 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et il donnait le 90% de tout ce que son entreprise pouvait rapporter pour le service de Dieu. Il avait compris que c'était normal. Jusqu'au jour où Dieu lui a montré, maintenant il faut que tu donnes le 100%. Alors on a tous une mesure de foi différente, c'est vrai. Mais on est tous appelés, selon notre mesure, à tout donner pour Dieu. Pour le service. Mais que ce soit clair, je ne dis pas à des gens qui travailleraient, donnez-nous de l'argent. Mais donnez-le quelque part. Réalisez que si vous avez un travail, est-ce que vous êtes sûr que ce travail, c'est la volonté de Dieu? Et au travers de ce travail, servez-vous le Seigneur. Sinon, il faut le quitter. Qui c'est qui dit ça dans les églises? Un jour, un pasteur m'avait dit, mais qui c'est qui prêche l'évangile de Jésus-Christ aujourd'hui à Toulouse, il m'avait dit. Toutes les églises qu'il y a à Toulouse. Il n'y a personne qui peut prêcher ça. Mais c'était un pasteur que j'aime beaucoup et même consacré à Dieu. Mais non, c'est vrai, c'est plus possible aujourd'hui. Mais réfléchissons que quoi que nous le fassions réellement pour la gloire de Dieu. Et que si nous vivons des choses à l'intérieur, réfléchissons à ce que l'on veut faire réellement de notre vie. Parce qu'avant de prendre le train service pour Dieu, il faut descendre du train service du monde. Vous voyez? Et le problème, c'est qu'avec nos vies, les adultes en particulier, on n'arrive jamais à s'arrêter. On avance, on avance, on avance, et on ne s'arrête pas pour réfléchir clairement. Et j'ai peur que l'on s'arrête et on sera obligé de s'arrêter quand le Seigneur va revenir. Et quand le Seigneur reviendra, malheureusement, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Et comme l'expression le dit, on se mordra les doigts. Le problème, c'est qu'on va se les mordre pour l'éternité, bien-aimés. Mais Jésus, il ne se mordra jamais les doigts parce qu'il a tout donné, comme on vient de l'entendre. Paul, il ne se mordra jamais les doigts parce qu'il a tout donné, comme on vient de l'entendre. Tous ces témoins d'Hébreux 11, comme vous pouvez y méditer, il n'y a personne qui se mordra les doigts. C'est des gens dont le monde n'était pas digne. Ils ont tout donné pour Dieu. Notre problème, c'est qu'on lit la Bible. On lit les récits de missionnaires, de grands hommes de Dieu, comme des contes de fées qu'on donne aux enfants. Mais qui le vit réellement? Oh, si nous pouvions réfléchir, ne pas être touchés, mais réfléchir et se dire maintenant, qu'est-ce que réellement je vais faire de ces dernières années de ma vie et de la vie, de ce monde qui reste? Voilà, je ne vais pas faire trop long, que le Seigneur lève dans son Église un vrai corps. Je crois que mon problème, c'est le problème de Dieu. Mon problème, c'est le problème de Dieu. Dieu soupire, Dieu souffre, Dieu crie. Stéphane lui-même, quand il avait vu cette vision d'étreint service de Dieu, et il les voyait passer, et personne qui montait dedans, disait qu'il avait pleuré. C'est Dieu qui l'a fait pleurer. On a de la peine à l'entendre aujourd'hui. Réfléchissons bien. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? Il y a des personnes qui peuvent être à un croisement de leur vie. Les jeunes, quand vous êtes dans l'adolescence, voilà, vous êtes à un croisement. Ben, prenez la bonne route. Prenez la bonne route. Mais si nous sommes déjà sur un certain chemin, revenons à ce croisement ce matin, ces jours qui vont venir, ces semaines à venir, et réfléchissons réellement ce que l'on veut faire de notre vie avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il viendra un moment où ce sera trop tard. Et vous voyez le mauvais riche ? La Bible ne dit pas, mais il aurait tellement voulu pouvoir revenir en avant pour avoir une vie différente. Mais c'était plus possible. Et elle est terrible, cette parole qu'on vient d'entendre. Il y avait une abîme entre les deux, qu'il soit impossible à Lazare d'aller de l'autre côté, mais qu'il soit impossible à ce mauvais riche d'aller de l'autre côté. Est-ce qu'on va servir Dieu? Église évangélique, tu es beaucoup trop conditionné par ce salut, par la foi et par la grâce de Dieu qui te bouche les yeux et les oreilles sur l'évangile de Jésus-Christ. Relis l'évangile de Jésus-Christ, médite l'évangile de Jésus-Christ et vis l'évangile de Jésus-Christ. Sinon, je te le dis, tu vas avoir des surprises quand tu viendras devant le Seigneur. Tu ne pourras pas soutenir le regard de Christ. Tu ne pourras pas soutenir le regard de Paul, de Pierre, de tous ces apôtres, de tous ces authentiques disciples de Jésus-Christ qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église. Et ne te dis pas, oh, aujourd'hui c'est comme tel. Il y a cette mission l'espoir, il y a cette mission Réto dont je viens de parler, et celui qui cherche et qui veut réellement se mettre au service du Seigneur, Dieu lui le montrera. Mais es-tu prêt à faire ce pas? Et parfois on veut plus de son feu, on veut plus de sa gloire, on veut plus de sa présence. Mais Dieu attend que nous marchions dans ce qu'il nous demande. Et alors, nous recevrons ce à quoi nous aspirons. Sinon, et c'est là mon souci, c'est là mon problème, nous sommes un peuple chrétien qui aspire à vivre des choses, qui aspire, et qui continuera d'aspirer jusqu'à ce qu'il se fasse aspirer par la venue du Seigneur et qu'il soit bien sauvé, mais comme au travers du feu. Parce que c'est quand on bâtit vraiment sur le service, sur le sens que nous sommes en tant qu'Église, corps de Christ, qu'alors ces pierres précieuses, elles peuvent être posées dans notre vie. Qu'alors, tout ce à quoi on aspirait, on peut le vivre. On peut le vivre. Mais si on ne fait pas réellement le pas de dire, maintenant je te sers, et montre-moi où, comment, et pas de dire, oui, ça va se faire, tu travailles mon cœur, parce que parfois, on se laisse leurrer. Quand Jésus disait, suis-moi, les gens, ils le suivaient. Les fils de Zébédée, ils ont laissé leur barque et leur père. Et plus tard dans l'évangile, je le faisais remarquer au Pays Basque, on voit que la mère des fils de Zébédée, vous savez, c'est celle qui demande qu'elle veut qu'il soit assis à côté de Jésus, elle avait dû laisser le père, ou le père, il avait fini par suivre Jésus aussi. Mais c'était concret, c'était sérieux. Notre monde ecclésial, il est beaucoup trop spirituel. Beaucoup, beaucoup trop spirituel. Tout se passe dans nos cœurs, on aspire à des choses, mais on vit pas grand-chose. Et on ne se rend pas compte qu'on est leurré. Et Dieu, ça, il le voit. Il voit les chrétiens venir de réunion en réunion, louer Dieu pour son sacrifice, pour tout ce qu'il a fait. Puis après, ils repartent. Puis il dit, mais où mon église? C'est quoi mon église? Et chacun leur se dit, bon ben, voilà, je sens de faire ceci. Chacun ressent. On est complètement dans le ressenti. Oh, si Dieu pouvait mettre chacun devant lui pour qu'il fasse, pour qu'il chante ce chant en vérité. Nous marchons tous à ta suite. Quel que soit notre travail, quel que soit notre appel, nous marchons tous clairement à la suite de Jésus. Pas dans nos cœurs, dans la réalité, dans le concret. Moi, j'ai vu peu de personnes. Ils disaient, voilà, mon travail, c'est pour Christ. Et c'est clair, c'est net, c'est précis. On a souvent des chrétiens indépendants qui font chacun ce qu'ils ressentent. Et c'est là le problème. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas la puissance que Dieu voudrait. Et il n'y a pas les conversions que Dieu espérerait. Alors on se contente de gens touchés, on trouve même d'autres moyens pour toucher les gens. On rentre sans s'en rendre compte dans des séductions. Puis on devient une église qui chante, qui danse, qui a beaucoup de choses dans le cœur, mais où est le corps de Christ? Pardon de vous avoir partagé mon problème. J'espère qu'il pourra vous faire réellement réfléchir. Vous voyez, je ne cherche pas à prêcher fort, à toucher vos cœurs, mais à vous faire réfléchir. À vous faire réfléchir. Ce qui devrait être normal est anormal. Qu'on souhaiterait tous avoir des enfants missionnaires, c'est pas normal. C'est comme si... Il n'y a pas la question qui se pose, mais attends, mais tu vas servir Dieu. Qu'ils soient encouragés à servir Dieu. On encourage, c'est la normale de faire des études, de trouver un bon métier. Puis après, on se dit, voilà, dans mon métier, je vais servir Dieu. On compose, on fabrique. Mais dans la Bible, Dieu ne fabrique pas. Puisse-t-il ne pas fabriquer avec nous, mais puisse-t-il lever une génération qui va vraiment le servir. Parce que Dieu le souhaite, ce monde en a absolument besoin. Qu'on marche réellement à sa suite. Amen.
Seigneur, je voudrais que nous puissions chanter ce chant, mais encore une fois, pas seulement pour être touchés, mais pour réfléchir, pour qu'il soit un témoignage, je n'espère pas contre nous-mêmes, mais pour nous, que nous marchons vraiment à ta suite, que tu puisses parler concrètement à chacun de ces jeunes et à chacun de ces moins jeunes, à chacun de nous ce matin. Est-ce que nous voulons marcher? Est-ce que nous voulons être ce corps de Christ? Qu'allons-nous faire réellement de notre vie? Qu'allons-nous faire de nos mains, Seigneur? Qu'allons-nous faire de nos corps? Qu'allons-nous faire de nos cœurs? Qu'allons-nous faire de nos bouches? Qu'allons-nous faire de tout ce que tu nous as donné? Allons-nous le placer pour toi? Allons-nous vivre pour toi? Allons-nous revenir à la vraie foi, sauvés par la foi et pour la foi? Allons-nous revenir aux vraies Écritures, à l'Évangile de Jésus-Christ, et non pas à l'Évangile de l'Église évangélique, à l'Église de Jésus-Christ, et non pas à l'Église évangélique, ou réformée ou que sais-je? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous être, Seigneur? Allons-nous t'entendre? Allons-nous te voir? Allons-nous percevoir ce que nous ne pouvons percevoir parce que nous sommes endormis par ce monde, endormis par cette ecclésiologie mensongère? Oh, si tu pouvais faire grâce, Seigneur! Oh, moi, j'aimerais même être retranché, Père Céleste! Retranché pour que, ici même et ailleurs, tu puisses avoir la joie, Père, de voir des gens rentrer dans ton service et vivre réellement pour toi, oser faire le pas, comprendre ce que cela veut dire. J'aimerais même que cette mission, elle tombe par terre pour que d'autres se lèvent. Combien tu souffres, Éternel? Combien tu pleures? Conséquent devant ton sacrifice, devant ta parole. Oh, je sais, Seigneur, que nous ne nous en rendons pas compte. Alors montre à ces bien-aimés ce matin tout l'amour qu'il y a dans ton cœur et dans le mien, ta miséricorde. Mais aide-nous, Père, aide-nous à ouvrir les yeux, comme cette parole que tu as fait entendre, à t'écouter, à ouvrir les yeux pour comprendre quelle génération tu veux lever. On veut arrêter de lire dans des livres, mais on veut être de ceux qui écrivent l'histoire. C'est des gens comme nous, ils ont simplement osé faire le pas. Pourquoi n'oserais-tu pas faire le pas? Devenir un serviteur, une servante de Dieu, ça veut dire un vrai chrétien, comme Christ, dans son ministère, dans son service, membre de son corps, faisant tout pour la gloire de Dieu, dans l'amour de son avènement. Comprenant que ce monde n'a rien à offrir, n'a aucun sens, si ce n'est en tant que chrétien, qu'on serve Dieu pour le réconcilier, d'autant plus parce qu'il vient bientôt. Ces choses, elles sont toutes simples, elles devraient être évidentes, et pourtant il y a besoin comme d'une révélation pour les comprendre. C'est la preuve qu'on est dans un monde inique, puissant, subtil, et spiritualité, qui sont un faux prophète, qui nous bouche la claire vision de Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Purifie nos cœurs. Aide-nous à lire ta parole comme elle est, tout simplement. J'aimerais vous donner une parole prophétique que je reçois en ce moment même de Dieu. Supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Je crains que vos pensées soient corrompues et se soient détournées de la simplicité à l'égard de Christ, et que vous ressentiez beaucoup de choses, que vous croyez vivre beaucoup de choses, et que la simplicité de Christ, dans le vécu, dans le concret, où vous habitez, comment vous servez, eh bien vous vous en soyez détourné. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous le supportez fort bien. C'est 2 Corinthiens 11, versets 1 juste à 4. 2 Corinthiens 11, verset 1 juste à 4. Je le crois, une parole de Dieu, non pas dans ce qu'on ressent, mais à méditer. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées se soient corrompues et se soient détournées de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un est venu vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, que la Bible prêche, que Jésus prêche, mais que nous n'entendons plus, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, le jour où le Seigneur est venu, vous étiez prêt à tout lui donner, à le suivre, on était prêt à tout servir, mais après on s'est dit quand même, faut qu'on ait une situation, faut qu'on donne une situation à nos enfants, il faut que nos enfants aient une situation, il faut quand même qu'ils aient des diplômes, il faut quand même qu'au cas où ils puissent réussir. Dans quel monde? Dans quel monde? Dans quelle vie? Pour quelle vie? Nous avons perdu la vision du crucifié, la vision de Jésus-Christ, de cette vie séparée de Dieu dans laquelle nous sommes, et du cœur du Père qui a donné son Fils et qui alors veut nous donner chacun pour notre part, pour ce monde. Car il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, et qu'il veut donner chacun de nous, et on peut donner chacun notre nom pour le réconcilier, parce qu'il revient, qu'on n'a rien à faire de ce monde. Comme je le prêchais, si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance en Christ, le disait Paul, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais il n'y a personne qui comprend ce verset dans l'église aujourd'hui, ou très peu. On est tous joyeux, on est tous bénis. Mais qui sert le Seigneur? Qui souffre comme Paul a souffert? Qui pourrait dire comme lui, si c'est pour cette vie-là, je suis pour le plus malheureux? Parce qu'il sait que c'est pour la vie à venir. Que la vie du monde à venir soit plantée dans votre cœur, les enfants. N'ayez rien à faire de ce monde. Il ne va rien vous apporter. Vous êtes faits pour son règne. Vous êtes fait pour son royaume, vous êtes fait pour l'éternité, vous êtes fait pour la vie à jamais, pour l'éternité, éternelle, 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 comme le nom de notre Dieu. Alors servez-le, préparez-vous à le servir, réfléchissez à le servir, plus qu'à faire quelque chose dans ce monde. L'économie de ce monde, elle va bientôt s'écrouler. Et même si elle ne s'écroulait pas, Dieu va tout ébranler quand il va revenir. Qu'aurez-vous à faire de vos diplômes? qu'aurez-vous à faire de vos métiers? Faites de Jésus votre métier. Faites de Jésus votre vocation. Et comprenez que le Père, c'est le seul dessein qu'il a dans son cœur. C'est à cela qu'il nous destine, qu'il nous prédestine. Oui, on est prédestinés à devenir ses enfants d'adoption et à avoir toutes ces bénédictions spirituelles. Mais on est prédestinés aussi à le servir. Attention à trop compliquer les choses, bien-aimés. Attention à trop ressentir de choses. Avoir trop d'enseignements, de séminaires. Servez le Seigneur. Vous êtes prédestinés à le servir. Concrètement, réellement, à marcher. À rentrer dans un apostolat, dans une mission donnée par Dieu et non pas dans un indépendantisme. Alors on sera fort. Alors les envoyés de Dieu seront forts. Ensemble, un même corps, une même âme, un même homme qui renversera cette tente de ce monde si puissant. Seigneur, combien je souffre avec toi, combien mon problème est grand, combien je te prie que ton cœur soit soulagé, ici même dans cette mission, en Europe, en Afrique, partout où il y a des besoins, et combien ces besoins sont grands. Lève tes serviteurs, si tu es en haut, en bas, sers Dieu, tu n'auras pas le choix. Tu n'auras plus le choix, tu vivras ce à quoi tu aspires. Oh bien-aimé, j'espère que ces paroles ne sont pas trop fortes, mais que vous saurez les entendre, les comprendre, mais surtout les vivre. Surtout les vivre. Seigneur, j'étais venu à ce culte pour ne pas parler. Recevoir. Me voilà encore tout transpirant devant ces bien-aimés. Oh, permets que cela ne soit pas vain, Seigneur. Permets que cela ne soit pas vain, Éternel. Mais réveille celui qui dort. Ramène-le à cette simplicité de Christ. Montre à celui qui réfléchit qu'il n'a plus à réfléchir, mais qu'il a à obéir, qu'il a à trouver une mission et à devenir missionnaire, à devenir chrétien. Chrétien, comme Christ, comme Jésus, prolongeant le ministère de Jésus, étant ce corps dont il est la tête. Oh, je répète, parce que nos esprits ont besoin d'être frappés par la simplicité de Christ. C'est pourtant si simple. Pardon, Père, pour tout ce qu'amène ton Église de si compliqué et qui nous fait nous être détournés de la simplicité à l'égard de Christ. Rassemble-nous, Seigneur, rassemble-nous comme ton corps. Chanter ce chant un jour en vérité.